Vous connaissez tous et toutes la belle phrase de ce grand poète méconnu qui s'appelle Pierre Reverdy. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, je suis venu si souvent ici qu'il faut croire que j'aime la BAI. D'ailleurs, c'est un amour qui remonte loin, qui remonte aux années 70, quand je me suis retrouvé dans les premiers jours, franchement, d'un très beau projet qui s'appelle Les lieux de mémoire. Pierre Nora venait d'être élu à l'école des hautes études en sciences sociales, venant de Sciences Po. Et peu à peu, il a cristallisé dans le cadre de son séminaire un projet sur les lieux de mémoire, que plusieurs d'entre vous ont dû lire, sans doute pas in extenso, c'est pas l'objet, mais. Et dans les tout premiers temps des lieux de mémoire, figurait au milieu de lieux de mémoire de la République allant de soi, comme le drapeau tricolore, le Panthéon, etc., la BAI. Une monographie de Pascal Marie. J'ai beaucoup de plaisir, même plus que du plaisir, quelque chose de très émouvant de me retrouver ici. Voilà. Alors je vais essentiellement partir et revenir d'un texte publié fin 2023, donc déjà très ancien, hein. Ce cher et vieux pays, dans la collection Tract. Chez Gallimard, collection que la plupart d'entre vous évidemment connaissent et ont pu avoir l'occasion de lire tel ou tel titre, dont l'intérêt et les limites est qu'il s'agit de textes courts, d'une trentaine de pages, s'apparentant à la dimension d'un long article, enfin long, tout est relatif, et ayant un rapport avec la notion de libelle ou de pamphlet, qui est un rapport volontairement d'ailleurs ambigu. Certains textes sont vraiment tout à fait pamphlétaires, d'autres pas. Le mien, ben, ça sera à vous d'en juger, moins par mon résumé que par la lecture, si vous avez l'occasion de le lire, est surtout né d'un constat que j'ai mis du temps à me faire à moi-même, et comme toujours dans ces cas-là, à me dire, mais au fond, je vais peut-être essayer de mettre en ordre les idées qui me viennent quand je fais ce constat, et ça donne ce texte. Je ne dis pas que d'autres avant moi ne se sont pas posé cette question, mais comme ça, à mon avis, pas tout à fait. Voilà. Donc je cadre quand même mon exposé, ce sera le résumé d'un texte lui-même, au fond, défendant sans doute une thèse, mais de manière très succincte. La référence est claire pour certaines et certains d'entre vous. Il s'agit d'un moment assez fort de l'histoire de France, au cœur de la guerre d'Algérie, la semaine des barricades. Le général de Gaulle prend la parole, radio-télévisée, en uniforme militaire, car la situation est grave, la France bascule dans la guerre civile. Voilà. Et c'est à cette occasion qu'il met, comme ça lui est arrivé de trois ou quatre fois dans ses grands discours, mettre une touche complètement sentimentale. Et je me rappelle à l'époque, mes parents n'avaient pas encore la télévision, ils l'auraient l'année suivante, les conversations consistaient à dire que le général de Gaulle a eu un moment où il s'est adressé, mais quasi sentimentalement, à chacun d'entre nous. Et cette phrase qui commence par « Eh bien, mon cher et vieux pays ». Le « Eh bien » et « Mon cher et vieux pays », le lendemain, à la limite, c'était le plus important du discours. Les barricades, c'est-à-dire le début d'une guerre civile, se sont arrêtées là, non pas par le miracle du verbe du général, mais dans cette circonstance exceptionnelle, la formule a marqué, et elle m'a marqué quand j'ai voulu revenir sur ce cher et vieux pays, qui est le pays où je suis né, voilà, et je suis citoyen français, bon, ça ne surprendra peut-être pas, mais comme vous le verrez, du coup, cela s'adresse, ce type de littérature, aussi bien à des Français qu'à des étrangers, bien sûr, par comparaison, et pour une raison que vous comprendrez tout à l'heure, mais très rapidement, c'est-à-dire que je consacre quelques pages vers la fin à un pays qui me paraît être l'inverse, je ne dirais pas l'anti-France, mais l'inverse de la France, qui s'appelle la Suisse. J'ai été depuis trois fois invité en Suisse pour ce texte. Voilà. C'est vrai que je me suis interrogé sur l'identité suisse en regard de l'identité française. Bon, peut-être que dans la discussion qui suivra, les phrases que j'ai entendues, les argumentations opposées que j'ai entendues sur la comparaison France-Suisse vont ressurgir. Je m'y attends. Étant bien entendu, mon objet, c'est quand même ce cher et vieux pays. Je pars aussi d'un pseudo-apologue chinois, c'est peut-être vraiment un apologue chinois, ça a tout l'air d'être chinois, mais c'est un peu une chinoiserie, que vous connaissez sans doute, là aussi pour la plupart. Quand le sage montre la lune, L'imbécile, alors l'idiot, le crétin, hein, regarde le doigt. Alors, c'est un apologue tout à fait désobligeant, mais que je trouve assez juste dans certaines circonstances, dont celle-là. En d'autres termes, pour moi, c'est l'origine de ce texte, une partie des débats dits franco-français, qui mobilisent provisoirement, voire périodiquement, voire éternellement, les Français. Alors, c'est quoi les Français? D'ailleurs, une partie des Français opinant, en sens divers et variés. Il me semble que parfois, on regarde le doigt et qu'on oublie la lune. Et pour moi, la lune, c'est la particularité, la singularité des institutions politiques françaises. Évidemment, depuis une date capitale qui est 1958, mais qui permet de remonter plus haut. Depuis 1958, en Europe occidentale, si on nous compare aux pays riverains, frontaliers, je ne vais pas nous comparer à la Chine populaire avec sa propre histoire, ou à la Bolivie. Hein. Je parle de... Prenons les frontières. Belgique, Luxembourg. N'oublions pas le Luxembourg, hein, que, évidemment, du point de vue d'un grand pays, on méprise toujours et qui est très intéressant à tous les points de vue. Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. Je ne dis même pas le Portugal, qui n'est pas frontalier, mais vous me comprenez. Les démocraties qui, finalement, aujourd'hui où je parle, et depuis déjà un certain temps, sont des démocraties libérales, ce qu'elles n'étaient pas pour l'Espagne, le Portugal. D'accord, mais je parle de la situation actuelle et je remonte un peu dans le temps. Ça me fait remonter à 58 en France. Tous les autres pays ont fait le choix d'une démocratie libérale, comme la France, mais de structure parlementaire. Ou, pour simplifier, je ne suis pas un professeur de droit constitutionnel, mais enfin, je parle du point de vue de l'historien qui a été historien du politique au croisement de l'histoire du culturel. On va résumer ça en disant que dans ce schéma, alors on peut toujours nuancer, le chef de l'État est un acteur politique faible face au chef du gouvernement, qui lui-même est souvent un acteur politique faible face au Parlement. Ça n'a rien à voir avec la France de 58 jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, même après dissolution. Il est clair que nous avons des institutions. Alors, là aussi, les spécialistes de droit constitutionnel diront, est-ce que c'est vraiment un régime présidentiel? Il y a du semi-présidentiel? Non, mais ce qui m'intéresse, c'est la distance par rapport à tous les pays voisins, sans exception. Et c'est ça que j'appelle la lune, parce que ça mérite quand même une réflexion. Bien entendu, l'historien, avec son expertise, va dire, bah oui, ça remonte au déluge. D'accord, mais plus fondamentalement, je pense que cette particularité, ce particularisme, je préfère dire, cette singularité française, ça interroge d'autant plus que les institutions de 1958 ont été approfondies, certains adversaires diraient aggravées, avec la réforme de 1962 appliquée en 1965, l'élection au suffrage universel du président de la République. Vous imaginez à quel point ça colore dans un sens qui était déjà, d'une certaine façon, pressenti, soit sans doute même voulu par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1958, avait à résoudre un problème pour lui complètement secondaire, qui s'appelle l'Algérie. Parce qu'il est clair que pour le général de Gaulle, l'Algérie, c'est un boulet. Ce qui compte pour lui, c'est le génie des institutions, la grandeur de la France. Le boulet algérien, il mettra 4 ans à s'en débarrasser, c'est-à-dire qu'il résoudra le problème à sa façon, en autant de temps, mais quand même pas en moins de temps, que la 4e République avait été incapable de résoudre le problème. Ça durait depuis 4 ans, en 58, ça durera encore 4 ans. Mais pour le général de Gaulle, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la France redevienne grande, assez autonome, voire très indépendante, etc., et qu'elle ait un chef digne du nom de chef. C'est ça le projet du général de Gaulle. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas en 58, compte tenu de la guerre d'Algérie, etc., qu'il pouvait tout de suite proposer ce qui était sa volonté, on le sait maintenant, Michel Debré n'a pas dit le contraire, c'est-à-dire de passer au suffrage universel pour le président de la République. J'ajoute un élément sur lequel je reviendrai peut-être si on a le temps, mais qui est capital, c'est que le diable étant dans les détails, mais je ne dis pas que c'est un vrai diable, c'est peut-être un bon petit diable, chacun choisit son camp. Dans cette réforme de 62 appliquée en 65, qui est capitale, y compris d'ailleurs dans le destin de François Mitterrand, parce que François Mitterrand a été élu en 80 parce qu'il avait mis en ballotage le général de Gaulle. Bon, il n'était pas le seul, mais donc c'est une date importante, 65. Mais cette réforme de 62 appliquée pour la première fois en 65, et de nouveau appliquée sans cesse jusqu'à ce soir, vous aurez noté qu'il y a une disposition de la loi électorale qui est spécifique, qui est presque étrange, le maintien au second tour seulement des deux candidats arrivés en tête. Ce qui n'est pas le cas de la loi électorale standard en France. Donc, il y a une volonté de faire en sorte que ce président élu au suffrage universel, vous imaginez l'augmentation de, non seulement symbolique, mais tout simplement démocratique, qui vient de ce que le chef de l'État soit élu par le peuple avec un grand P et sans autre médiation. C'est considérable. Mais en plus, il doit avoir la majorité des suffrages, puisqu'au second tour, il n'y a plus que deux candidats. C'est nous la métaphore du géant hanté de la fable chez le général de Gaulle, c'est-à-dire que ce géant, il meurt, il ne peut pas reposer sur le sol, dans la mythologie grecque. Eh bien, le chef de l'État, quel qu'il soit, dans la perspective du général de Gaulle, sera hanté sur le sol, en jouant sur le mot du géant hanté et hanté, parce qu'il aura forcément la majorité. Techniquement, il aura la majorité au second tour. Ça, c'est un dispositif capital dans la perspective du général de Gaulle. Ça veut dire aussi qu'on enracine structurellement la bipolarisation. Oui. Eh oui, un de mes étudiants a d'ailleurs fait un livre un jour sur, partant de l'hypothèse qu'il y aurait eu trois candidats. Et il imaginait qui aurait gagné au second tour. Enfin, bon, évidemment, la face, non pas du monde, quoique, mais de la France aurait été changée. Donc, c'est tout à fait capital. On a vu au moment de la dissolution récente, donc là, je ne vous parle pas de 58, mais de date plus récente, que ce chef de l'État, élu désormais, donc avec une légitimité, je dis bien une légitimité décuplée par ce suffrage universel direct, a aussi des possibilités qui viennent là pour le coup de la Constitution de 58, considérables, que le président des États-Unis n'a pas, par exemple, de dissoudre l'Assemblée nationale. Monsieur Trump, peut-être qu'il en rêvait, mais il ne peut pas dissoudre la Chambre des représentants, etc., etc. Donc, nous sommes vraiment devant un régime qui est très particulier par rapport aux démocraties libérales voisines. Je pose ça sur la table. Je vais essayer de voir comment on peut éclairer ça en remontant un peu dans le temps. Mais à la limite, je pourrais m'arrêter là et on commencerait à discuter. Parce que l'hypothèse qui, du coup, m'est apparue, bon, qui est présente dans d'autres textes antérieurs, mais qui s'est précisée, cristallisée peut-être, d'ailleurs, c'est en quelque sorte spectacularisée à cette occasion, c'est qu'en y réfléchissant, moi je pose comme constat, second, en remontant, que la France aurait inventé ce que j'appelle la démocratie autoritaire moderne. En d'autres termes, je suis de ceux qui pensent, et là, je sais que je ne suis pas suivi par de larges masses, mais j'avoue que ça me laisse complètement indifférent, je ne suis pas de ceux qui pensent que démocratie égale liberté. J'ai beau regarder, je ne vois pas dans la définition fondamentale standard de la démocratie, un espace pour la liberté. La démocratie, c'est la souveraineté qui est interrogée, et c'est la souveraineté du peuple. Après, on s'interroge. Est-ce que ce peuple est un démos, un ethnos, un prolétariat? D'accord, ça c'est l'histoire avec sa grande vache. Mais je suis désolé de le dire, la démocratie, c'est une affaire de souveraineté, ce n'est pas une affaire de liberté. C'est idéologique de penser que c'est associé, parce que dans des déclarations solennelles, droits de l'homme, on associe les deux. Mais c'est parce qu'on fait le choix de la démocratie libérale. Donc la démocratie qui introduit la liberté dans ses principes, c'est la démocratie libérale. Ça veut dire que pour moi, il y a dans l'histoire la place pour d'autres types de démocratie, parce que la souveraineté du peuple, et d'ailleurs les Grecs l'avaient bien pressenti avec la notion de tyran, qu'il ne faut pas confondre avec despote, hein, rien à voir avec le despote, le tyran, c'est effectivement quelqu'un qui a le mot démos ou quelque chose d'équivalent sans arrêt à la bouche. Je rappelle que l'ancien socialiste avancé italien qui s'appelait Benito Mussolini, qui était jusqu'au 1er août 1914 le leader de l'aile gauche du Parti socialiste italien, a basculé dans ce qui va devenir peu à peu le fascisme en créant un journal à l'automne 1914. L'Italie n'est pas encore en guerre. Il va contribuer à la faire entrer en guerre avec d'autres, qui s'appelle Il Popolo d'Italia. Donc, quand vous mettez Il Popolo, le folk, qui n'est pas synonyme de popolo, bon, c'est autre chose. Mais en avant, ben, il est clair que vous êtes dans une perspective où le peuple, le folk, ce qui n'est pas synonyme de peuple, est la base de la souveraineté. Et c'est ce que dit le tyran. Et c'est ce que dit le tyran, au sens grec du terme, après éventuellement au sens métaphorique. Bien entendu, il est la voix du peuple. Et ça, c'est de la démocratie, je suis désolé de dire. Si on dit, mais... Et je l'ai entendu souvent, y compris peut-être même dans ma famille. Mais non, quand même, la démocratie, c'est... Ça... Non, il y a une option de la démocratie qui s'appelle la démocratie libérale, et il y a des démocraties. Alors, on a inventé illibéral, je pense que c'est inutile. Moi, je dis démocratie autoritaire. Et considérer la planète ce soir, la formule de la démocratie autoritaire peut être appliquée à la majorité des États de la planète, avec des variantes. Je vais jusqu'à dire qu'il y a une troisième famille, la démocratie totalitaire. Voilà. Donc je pars de ça, mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. D'ailleurs, je l'ai un peu fait dans des textes précédents. Je voudrais revenir sur le fait que la France a contribué à sophistiquer cette notion et surtout à la moderniser. C'est pour ça que je parle de la démocratie autoritaire moderne. Et ça s'appelle Napoléon Bonaparte. Évidemment. Parce que Napoléon Bonaparte, Madame de Staël, que je trouve assez remarquable, mais on pense qu'on en veut en tous les cas, qui était remarquée par Napoléon, c'est-à-dire négativement, à la fois parce que, bon, elle ne l'a pas suivi, et aussi parce que c'était une femme, et que c'était quand même fondamentalement un macho corse, mais bon. Toujours est-il que Madame de Staël a une formule que je trouve très juste. On peut en discuter techniquement, mais discuter techniquement, c'est, comme le disait Barbey d'Orvilliers, on cherche des poux dans la crinière des lions. Bon, donc, moi je trouve que c'est une superbe formule, c'est Robespierre à cheval. Donc quand on est Robespierre à cheval, effectivement la définition parfaite du tyran. Voilà. On voit bien comment il est héritier, au-delà de Robespierre, de... Il fut jacobin aussi, mais peu importe. Il est héritier de la Révolution, et en même temps, restaurateur de la monarchie. Et c'est le « en même temps » qui est intéressant. C'est que ça peut fonctionner, justement. Par exemple, symboliquement, il est bien sûr non pas empereur de France, mais empereur des Français. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que la Révolution étant déjà passée, Louis XVI, quand il est renversé, n'est plus roi de France déjà, il est déjà roi des Français. Donc, empereur des Français, qui sans arrêt recourt au plébiscite. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la notion de plébiscite, y compris, puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur « qu'est-ce qu'une nation ?», la fameuse phrase géniale, à mon avis, de Renan sur la nation qui est un plébiscite de tous les jours, elle est écrite à la lumière de l'expérience du Second Empire. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que Renan a terminé la traversée du Second Empire, rallié au Second Empire. Ça, on ne le dit jamais. Il était proche d'Émile Ollivier, de ces gens-là. Bref, la notion de plébiscite est extrêmement riche par rapport à la notion de référendum. Toujours est-il que Robespierre à cheval, ça me paraît tout à fait convenir. Et surtout, la plus belle démonstration de la contribution éminente de la France à l'histoire moderne de la démocratie autoritaire avec le neveu de l'oncle. Louis-Napoléon Bonaparte, auquel d'ailleurs Karl Marx avait consacré un texte. Parce que tout est résumé dans la prise du pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Élu président de la République au suffrage universel en 1848. Je n'ai pas fait une recherche systématique. Moi, je ne vois pas de cas avant 1848, à la surface de la Terre, de président de la République élu au suffrage universel. Je rappelle que le président des États-Unis n'est toujours pas élu au suffrage universel, j'entends direct. Les grands électeurs, c'est autre chose. Il me semble. J'ai cherché en Amérique latine, je me suis dit peut-être du côté de Bolivar, etc. Il ne semble pas. Enfin, peu importe, à la limite. Ça a été très impressionnant pour l'ensemble des électeurs français, et plus particulièrement pour les Républicains, de voir à quel point on était entré dans une logique tyrannogène, je vais inventer le terme, tyrannogène, avec une élection du président de la République au suffrage universel. Louis-Napoléon Bonaparte écrase ses adversaires en 1848. Sa légitimité est sans conteste. Bon, on rêverait aujourd'hui des pourcentages qu'il a atteints en 1848. Il est incontestable. Et 3 ans plus tard, il prend le pouvoir. Et je cite dans le tract, et je vous le relis là, le texte du coup d'État. C'est extraordinaire du point de vue de ma démonstration. Au nom du peuple français, bien sûr. Bon. Le président de la République, il n'est pas empereur encore, hein. Bon. Président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale dissoute. Ça, c'est le coup d'État. L'Assemblée nationale dissoute. Il ne respecte ni son serment, ni la Constitution. Article 2, le suffrage universel est rétabli. C'est ça, et ça, c'est le tyran. Alors, vous me direz, mais je comprends rien, il a été élu au suffrage universel. Ben non, il a été élu, certes. Mais depuis 3 ans, ce qu'on appelle le parti de l'ordre, pour simplifier, c'est-à-dire à ce moment-là qu'on commence à raisonner en termes de parti, vraiment. À travailler via l'Assemblée nationale, d'ailleurs, et par d'autres moyens, la patte électorale, en disant qu'il faut trouver des biais pour que ce suffrage universel soit de moins en moins universel. Vous savez que c'est une question qui se pose dans les États du Sud, aux États-Unis. Enfin, comment on peut apparemment respecter le suffrage électoral standard, en tout cas légal, et faire en sorte que des électeurs soient éliminés. Résultat, en l'espace de 3 ans, grosso modo, 30% un tiers de l'électorat se retrouvait de fait, presque de fait, exclu du suffrage. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte est tout à fait légitimé à dire il n'y avait plus de suffrage universel et moi, prenant le pouvoir, je redonne le suffrage au peuple. Et ça, ça définit superbement la démocratie autoritaire. Et c'est à prendre très au sérieux. Hein. À prendre très au sérieux, mais il y aurait bien d'autres choses à dire. Deuxième étape, dans, sinon la démonstration, du moins la réflexion que je vous livre, pour moi, c'est la France qui a aussi inventé le populisme moderne. Alors là, je renvoie à un livre qui était consacré entièrement à cette question, y compris à répondre à la question populisme, renonçant à ce terme qui est trop flou. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Mais si on partage l'analyse que j'ai faite dans cet ouvrage, il est clair qu'en France, vous avez une configuration à la fin du XIXe siècle qui a tous les traits de ce que j'appelle dans ce livre et dans quelques autres textes, le populisme, c'est le boulangisme. Et ce qui est remarquable dans le boulangisme, et ce que un certain nombre, peut-être d'historiens, mais surtout de non-historiens, ont du mal à admettre, c'est que dans l'état-major boulangiste, il y a convergence entre les deux extrêmes, l'éventail politique français de l'époque. Bien entendu, il y a par exemple des monarchistes populaires. Ça, les monarchistes populaires, en général, tout le monde s'en fout, c'est quand même très très intéressant. Leur principal organe s'appelait le suffrage universel, évidemment. Parce que ces monarchistes populaires, je ne vais pas vous faire un cours non plus sur les monarchistes populaires, d'ailleurs je n'ai pas une grande expertise dans ce domaine, mais ce que j'en sais me suffit vraiment, sont issus d'une réflexion autocritique, dirait-on, des monarchistes sur ce qui leur était arrivé en 1830, 1848, et puis même Napoléon III, à la limite, c'est pire que tout. Donc qu'il faut réintégrer ou intégrer le suffrage universel dans une perspective monarchiste, et c'est très simple. Le vrai peuple, avec un P majuscule, est saint. Il est plutôt d'ailleurs rural qu'urbain, il est plutôt ceci que cela. Donc, si on sait lui parler, le peuple choisira la restauration de la monarchie. Et ces monarchistes populaires, ils sont assez nombreux dans l'état-major de Boulanger. Parce que c'est très intéressant de regarder un par un, à la limite, ceux qui entourent Boulanger. Et puis par ailleurs, Boulanger, qui lui est un républicain, hein, de culture, c'est un général républicain, bon, vu comme tel à l'époque. Donc, entre guillemets, de gauche, avec une dimension un petit peu anticléricale, les curés sac au dos, etc., il y a une partie de l'extrême-gauche de l'époque. Et cette partie de l'extrême-gauche surreprésente une bonne partie des blanquistes. Et pour simplifier, les blanquistes, ce sont des socialistes autoritaires, je dirais. C'est pour ça, d'ailleurs, que le blanquisme, pour moi, c'est le chaînon manquant entre le jacobinisme et le bolchevisme, évidemment. En tous les cas, peu importe l'analyse qu'on fait du blanquisme, concrètement, Blanqui est mort à ce moment-là, mais ses héritiers les plus directs, le canal historique blanquiste choisit Boulanger. Les blanquistes se divisent, Vaillant, etc., vont rester républicains, mais grosso modo, si on prend un à un les dirigeants blanquistes, la moitié choisissent le général Boulanger. Est-ce qu'on nous dit ça si souvent? Non, quelques spécialistes de Boulanger le disent. C'est très intéressant. Parce qu'effectivement, les blanquistes, et puis un certain nombre de socialistes autoritaires divers et variés non blanquistes, ont une démarche anti-parlementaire radicale. Pour eux le Parlement, c'est la corruption. C'est la bourgeoisie dans sa forme la plus corrompue qui soit. Donc il ne faut pas oublier ça, et ça explique qu'un certain nombre d'entre eux passent au boulangisme. Donc je ne vais pas épiloguer, puisque le boulangisme a été un échec politique. Puisqu'il faut bien distinguer en toute chose l'idéologique et le politique. Là, politiquement, ils ne sont pas arrivés au pouvoir, bon, pour des raisons diverses et variées. Mais est-ce qu'on suit à ce moment-là l'itinéraire des boulangistes qui ont raté leur coup? Ben, c'est très intéressant parce qu'ils vont aller créer le nationalisme, pour simplifier. Bon, la figure de Barrès n'en est qu'une parmi d'autres. Barrès qui se réclame du socialisme, hein, je rappelle. Quand il est candidat aux élections, il dit socialisme. Mais ce n'est pas un blanquiste, pote. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais bon, mais qu'est-ce que vont devenir principalement ces boulangistes vaincus, et en particulier de gauche, laissez passer quelques années, ils deviennent anti-Dreyfusards. Anti-Dreyfusards et antisémites. Moi, je l'avais observé pour certaines régions que je connaissais. Le maire boulangiste local, premièrement, il vient de la gauche. C'est un vrai laïc, il est même souvent rattaché aux radicaux, parce que les radicaux ont hésité. Hein. Ensuite, Clémenceau, d'accord. Et d'autre part, c'était des élus des classes populaires de leur ville. Et ces boulangistes tournent, quand ils sont encore aux affaires, ou quand ils arrivent aux affaires, dans les années 90, face à l'affaire Dreyfus, choisissent, alors presque tous, l'anti-Dreyfus. C'est quand même très intéressant. Donc, c'est ce que j'appelle la contribution française au populisme, étant bien entendu qu'on peut ensuite la chercher plus tard. Mais ce moment de cristallisation est aussi intéressant pour moi que celui du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il y a eu tout un débat d'ailleurs au centre d'historiographie française pour savoir pourquoi d'ailleurs la France aurait finalement échoué alors que d'après Zemsternel et d'autres, elle était un laboratoire du fascisme, rétrospectivement ou même clairement. Pourquoi au fond le fascisme n'a pas pris le pouvoir en France? Donc on pourrait se poser la question, toujours est-il que ce qui m'intéresse c'est pas ça, c'est alors une troisième étape, l'expérience de Vichy. Vichy ce n'est évidemment pas un régime fasciste. Il ne faut pas galvauder les termes comme ça. Il y a des fascistes qui vont suivre Vichy. En général, ils sont très prudents à l'égard de Pétain, qui pour eux n'est pas évidemment l'homme fort. Mais ils sont désunis entre eux. Ils sont minoritaires, clairement. Clairement, ils vont peu à peu entrer dans les institutions vichistes. L'État français de janvier 1944 est en train de devenir fasciste. Un renversement des rapports de force, et puis le glissement vers la résistance. Bon, on ne va pas non plus épiloguer sur des cas de figure très, très nombreux, de vichisto-résistants. Toujours est-il que ce qui reste de Vichy à une époque où, en fait, cet État français, puisque c'est son nom, quand même, c'est pas le régime de Vichy, c'est l'État français, théoriquement concentre, en effet, sur le plan symbolique, des attributs de chef de l'État exceptionnel. Monsieur le maréchal, vous avez plus de pouvoir que Louis XIV, dit Pierre Laval. Et c'est vrai, il a plus de pouvoir que Louis XIV, d'un point de vue juridique. Mais donc, oui, et en même temps, ça devient de plus en plus une façade, puisque la réalité du pouvoir, surtout à partir de l'occupation de la zone sud, etc., c'est l'Allemagne. Et donc, ceux qui peu à peu restent ou s'installent au pouvoir, et pas simplement Doriot, Déa et compagnie, mais bien d'autres, occupent effectivement désormais des lieux de pouvoir au sein des institutions françaises. Or, cet État français, il a quand même fonctionné sur... D'abord, un large consensus, invérifiable d'un point de vue électoral, un large consensus de l'opinion publique, 1940, surtout sur une légitimité incontestable. René Cassin, évidemment, fonctionnellement, ne peut pas accepter ça, mais ça ne tient pas. D'un point de vue légal, Vichy est absolument légal. C'est après qu'on va discuter, alors là, propos byzantin, la distinction entre légalité et légitimité. Mais la légalité du général de Gaulle, inexistante. Celle de Pétain est extraordinaire. Vous imaginez, ça a été fait beaucoup, faudrait reprendre tout ce qui se passe à Vichy en juillet 40, dès les premiers jours de juillet. On lui accorde, effectivement, plus de pouvoir que Louis XIV, passons. Mais qui lui accorde? La très grande majorité de la représentation nationale. Alors ou bien les mots n'ont aucun sens, mais dans ce cas-là... Rien n'a de sens, et alors, pourquoi pas d'ailleurs tout de suite une dictature intégrale? Ou bien, ça a du sens, la représentation nationale française en 1940 confie le pouvoir massivement au maréchal Pétain, et l'objection suivant laquelle il y avait un certain nombre de parlementaires qui étaient absents, moi j'ai beaucoup travaillé sur Jean Zay, donc je sais ce qu'on peut dire, et que d'autre part, un certain nombre, mais pas la totalité, loin de la totalité, des élus communistes étaient hors du jeu. Mais je rappelle que le Parti communiste a explosé, que donc il y a pas mal de parlementaires, sénateurs, il n'y en a pas beaucoup, mais et députés communistes qui quittent le Parti communiste à ce moment-là. Le Parti communiste d'ailleurs disparaît, il devient clandestin. Donc eux votent, et surtout, les élus, en particulier de gauche, alors d'une gauche qui s'étend d'un parti radical aux couleurs variées, jusqu'aux anciens communistes, qui se sont regroupés, qui sont quand même plusieurs dizaines, dans ce qui est... Vous le savez, à ce moment-là, le Congrès, réuni à Vichy, Congrès ou Assemblée nationale. Et puis, massivement, la majorité des élus socialistes votent Pétain. Parce que chez les 80 qui ne votent pas Pétain, les fameux 80, après, idolâtrés, il y a une majorité d'élus de gauche. Mais parmi les élus de gauche de 36, en 40, une grande majorité vote Pétain. Ben, il faut dire les deux à la fois. Il ne faut pas simplement dire, vous voyez, non. Voilà. Donc, c'est dire que ce régime, qui est une dictature, qui est clairement une dictature, a pu s'adosser à des formes de consensus qui, évidemment, changent de nature avec le temps, etc. On peut réfléchir, d'ailleurs, sur la notion de vigistore et vigistore. Je vous conseille la lecture qui m'avait beaucoup marqué personnellement, parce qu'elle est justement marquée au sceau du sentiment, un petit peu comme ce cher Jérémy, du texte écrit à chaud de Jean Moulin, Premier combat, qui est tout à fait remarquable, surtout par la description de l'effondrement d'un pays qui s'appelle, ce cher vieux pays, la France. Et vous voyez, à travers le cas de l'Eure-et-Loir, dont il est préfet, et de la ville de Chartres, où il réside, en tant que préfet de l'Eure-et-Loir, l'effondrement. Alors évidemment, en quelques jours, on va dire, ça remonte au déluge. D'accord, mais comment une société politique, s'effondre en quelques jours, sous le regard du préfet en plus. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je vous conseille la lecture symétrique d'un autre très beau texte écrit au fil de la plume, très peu connu, de Léon Blum, qui s'appelle « Le dernier mois est Moïs ». Pendant le mois d'avril, avril début mai, enfin avril 45, quand il est déporté, si j'ose dire, de Buchenwald et envoyé sur les routes par les SS, etc. Et qu'avec son épouse, puisque vous le savez, l'épouse de Léon Blum, la troisième épouse de Léon Blum, est venue le rejoindre pour l'épouser à Buchenwald, hein, parce que Léon Blum s'est marié avec sa troisième épouse, il était veuf, hein, les deux premières fois, à Buchenwald. Hein, à Buchenwald. Donc, d'ailleurs, là aussi, on retrouve Pierre Laval. Jeanne, future Jeanne Blum, est allée voir Laval, ancien proche du Parti Socialiste, hein, d'avant 14, est allée voir Laval pour lui demander un Ausweis pour aller se marier à Léon Blum à Buchenwald. Et Laval, en direct, lui a signé l'Ausweis et le lui a remis en disant « ça, c'est de l'amour ». C'est shakespearien, c'est absolument shakespearien. D'ailleurs, Léon Blum a été assez remarquable au procès Pétain sur ce plan, mais bon. Ça, c'est un très beau texte, « Le dernier mois ». Donc, vous avez deux textes comme ça, qui sont des textes qui vous sortent des tripes. Jean Moulin et Léon Blum, ça encadre bien. Jean Moulin, Premier combat au singulier. La première édition de Premier combat a été préfacée par un certain Charles de Gaulle. C'est la seule fois, je crois, où il a préfacé. Et « Le dernier mois », très peu connu, ça vient de ressortir en poche, de sortir quasiment, de sortir en poche chez Albin Michel. Et tout ça fait que nous avons un pays qui a un rapport à l'autorité, qui est quand même assez structurant, me semble-t-il, à travers des expériences qu'on peut considérer comme extrêmes avec Vichy, à travers des expériences plus expérimentales qui seraient le populisme boulangiste ou la démocratie autoritaire bonapartiste. Bon, je ne peux pas développer plus. Ça permet peut-être de comprendre pourquoi, et là je vais bientôt avoir terminé pour... Non pas parce que j'ai épuisé ce que j'esquisse comme une petite démonstration, mais parce qu'il vaut mieux en parler entre nous maintenant. Je crois que ça permet de comprendre pourquoi parmi les singularités françaises, depuis 58 justement, comme par hasard depuis 58, alors ça c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux tardivement, nous sommes périodiquement contre-cycliques par rapport à ce qui se passe en, on va dire, Europe occidentale, démocratie libérale, bon la perspective de comparaison est variable. J'appelle contre-cyclique 1958, c'est-à-dire au moment où, en attendant que l'Espagne et le Portugal, sous dictature, rejoignent le groupe, tous ces pays voisins ont choisi, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez l'Allemagne, mais bon, ces pays qui avaient de façon enracinée une expérience de démocratie libérale qui traverse tant bien que mal, plutôt mal que bien, évidemment, les périodes d'occupation, Seconde Guerre mondiale, etc., retrouvent ou instaurent, dans le cas de l'Allemagne, évidemment, un régime parlementaire et, disons, une démocratie libérale. Et puis, ceux qui vont suivre Espagne, Portugal, par exemple, ben, nous sommes contre-cycliques, parce que nous sommes les seuls, c'est ça qu'il faut quand même se rappeler, les seuls qui choisissent d'aller en sens inverse, c'est-à-dire de renforcer l'autorité du chef de l'État. Je ne suis pas en train de dire la dictature, mais enfin, tout est fait, vous imaginez, dans ces pays, la Belgique, pour contenir des dérives autoritaires au sommet. Bon. Premier contre-cyclisme. Il y en a sans doute d'autres. J'en pointe un autre. 1968. Moi, j'ai passé un temps à Nanterre, à dire pendant un certain temps, parce que je m'étais un peu laissé bourrer le mou par ce qu'on lisait ici, « Ah, quand même, 68, ça se resitue dans un mouvement général. Regardez, le Japon, l'Allemagne, le Mexique. » Mais non ! Il n'y a qu'en France que le mouvement a menacé, si peu que ce soit, le pouvoir au sommet. J'ai personnellement travaillé au cabinet d'Émile Biasini beaucoup plus tard dans les grands travaux. Émile Biasini était directeur de la télévision française en 68. un bon gaulliste issu de la résistance, etc., qui choisira peu à peu, comme Michel Jobert, de se rapprocher de Mitterrand. Enfin bon. Et il m'a raconté comment ça se passait, c'était impressionnant. En particulier, il a reçu, anecdote, mais c'est de la bouche du cheval, le général de Gaulle se vaporise, on ne sait pas où il est, tout de suite, coup de téléphone de l'Élysée, au directeur de la télévision, Biasini, pour dire « Le Premier ministre va sans doute vouloir prendre la parole, empêchez-le de prendre la parole. » Consigne de l'Élysée. Et alors, il a trouvé une embrouille pour qu'il fallait que ça tienne à peu près 24 heures. Donc, il a dit, quand évidemment Georges Pompidou, enfin, les représentants ont dit « Le Premier ministre va prendre la parole ce soir. » Catastrophe, vous savez, tous les camions de télévision sont en panne. Non mais on en est là. On n'en est pas là. Aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Allemagne, avec la bande Abadère. C'est n'importe quoi. Il y a une crise spécifique de la France. Évidemment, parce que nous sommes un pays chêne environné de pays roseaux. Donc évidemment, quand le chêne... Bon. Donc ça, c'est contre-cyclique. Contre-cyclique. 1980, élire un candidat d'union de la gauche avec des communistes, hein, au moment même où ceux qui émergent s'appellent Thatcher et Reagan. Nous sommes complètement contre-cycliques. Il n'y a aucun jugement de valeur. Hein. Je constate simplement que ce pays, vraiment, bon, on pourrait dire, on va presque s'arrêter là, 2017, élire un candidat européiste au moment même où les populismes surgissent un peu partout. J'aurais tendance à dire aussi les gilets jaunes. Moi, je me rappelle très bien que les médias, les premiers chercheurs qui se sont emparés de l'objet à chaud, se sont dit, ce sera intéressant de voir ce qui va se passer ailleurs. J'ai un souvenir assez précis, on disait, oui, ça commence à bouger un petit peu en Italie du Nord, mais bien sûr que non. Finalement, non. Donc il y a une spécificité de la crise des gilets jaunes. Donc ce pays mérite quand même qu'on s'y arrête. Il est clair que nous avons, au moins depuis 58, mais parce que tout ça fait résonner en remontant plus haut, nous avons affaire à une culture politique, donc là il faut des institutions terminées par la culture politique, qui, en particulier, a du mal avec des notions qui sont standards dans ces démocraties libérales dont je parle, à savoir coalition et compromis, par exemple. Bon, ça c'est tout à fait évident. Alors, la culture nationale, il y aurait beaucoup de choses à dire sur elle, sur le fait que les vrais régimes autoritaires ne peuvent être que centralistes. C'est contradictoire dans les termes que d'être une sorte de dictature décentralisée. Mais bon, on pourrait peut-être chercher, mais je ne vois pas. Donc nous avons une vieille tradition centraliste, et plus généralement, une vieille tradition unitaire sur laquelle on pourrait gloser indéfiniment. Je rappelle que, effectivement, quand il y a un affrontement, disons, de principe, mais plus que de principe, au sein de la Révolution française, il y a un groupe qui va être qualifié de girondin, pour simplifier, donc qui va accepter ou pas ce vocabulaire, mais peu importe. C'est-à-dire qu'en effet, il va y avoir l'ébauche d'une réflexion sur des institutions qui seraient issues de la révolution de 89 et suivantes, mais qui choisiraient des formes de décentralisation, je n'ose même pas dire de fédéralisme, bien qu'on les ait qualifiés parfois de fédéralisme, et puis d'autres. Donc nous avons effectivement une culture politique qui, faut-il dire, nous prédispose, en tout cas qui nous rend extrêmement accueillants à toute forme d'autorité, y compris le centralisme, sous sa forme la plus simple. Et c'est là que je me suis permis de consacrer quelques pages au contre-exemple suisse. Parce qu'au fond, depuis le XIIIe siècle, ce n'est pas d'hier, nous avons à nos portes un contre-modèle que moi, je n'hésite pas à qualifier de démocratique, qui coche beaucoup plus de cases que la France, qui s'est constituée très progressivement, mais jusqu'à ce soir, pour aboutir à une forme qui commence à sortir de la confédération, mais qui est quand même assez confédérale sur beaucoup de plans. N'oublions pas que... Si on regarde la logique des institutions, ce qu'on appelle les cantons, ce qui rend l'organisation suisse incompréhensible aux Français, parce qu'ils imaginent... Non, les cantons, ce sont des États souverains, au départ. Franchement, ce sont bien sûr des États souverains. D'ailleurs, la République de Genève... Alors, peu à peu, tout ça va se coaliser. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que ça va se coaliser après la seule guerre civile, il y en a eu une, suisse, qui a duré quelques jours et qui a dû faire, de mémoire, 93 morts. C'est pas quand même vraiment la guerre d'Espagne. Or, l'enjeu est intéressant, parce que ceux qui gagnent, les radicaux, effectivement, sont plus centralistes. Je vais simplifier, ils sont centralistes protestants face à des cantons confédéraux, Ça fait presque penser à l'avance à la guerre de sécession, confédérant catholique. Toujours est-il que, même si à partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'un mouvement fédéral qui s'instaure, on aboutit aujourd'hui à quelque chose qui est aux antipodes de la France. Est-ce que vous imaginez qu'en Suisse, il n'y a pas de chef d'État ? Il y a un conseil fédéral de 7 membres avec un président tournant. Mais le chef d'État, ce n'est pas le président qui tourne. Que j'ai rencontré le président tournant il y a quelques semaines, voilà, le président tournant d'il y a 3-4 ans, qui était un Valaisan pour diverses raisons. Bon. Donc, il n'y a pas de chef d'État. Mais si vous dites ça à un Français, il ne peut pas comprendre. Il ne comprend pas qu'un État puisse fonctionner sans chef. Avec en plus ce qu'on appelle la formule magique, depuis les années 50, hein, on est en, justement, on doit être dans les alentours de 59, je crois. Enfin, une formule magique qui consiste à dire, dans ce Conseil fédéral, qui est un chef d'État collectif, il y a obligatoirement représentation des quatre partis dominants de l'Assemblée fédérale. Donc, coalition obligatoire, compromis obligatoire toutes les minutes. N'imaginez pas ce que c'est que la vie quotidienne des institutions. Visitez à Berne le palais fédéral, c'est très intéressant. Je me permets d'avancer l'hypothèse que ça ressemble quand même pas mal à la démocratie, à ce moment-là. D'autant plus que la fameuse démocratie participative, la France en parle beaucoup. Elle accouche finalement d'un référendum d'initiative partagée qui n'a toujours pas été appliqué. C'est-à-dire, on parle beaucoup, oui, je commence à devenir un peu pamphlétaire, on parle beaucoup, ça prend du temps, on accouche, je ne vais pas dire d'un monstre constitutionnel, sauf que d'un objet qui, pour l'instant, est tellement mal pratique qu'on ne l'a pas encore appliqué. Hein. Et dans l'histoire française, ce n'est pas le seul. Pendant ce temps-là, les Suisses, depuis justement la victoire des radicaux, etc., les Suisses ont mis en place dans les années 1850-1860 un système de votation pluriannuel qui porte sur quantité de textes, certains secondaires, mais d'autres fondamentaux. Donc on ne peut pas dire, oui, ce sont des croquignoles. Non, pas du tout, des textes fondamentaux. Vous avez, donc j'avais noté, 550 textes qui ont été votés depuis le milieu des années 1860, sous forme de votation, avec deux types de votation, le référendum et l'initiative populaire. Le référendum, c'est là, parce que là aussi, perversion du système, enfin perversion, je retire le journal. En tous les cas, technique française, le référendum qui vient du sommet. Parce que ça aussi, ça fait quand même sourire dans certains pays étrangers. Référendum, référendum, ah oui, mais c'est le chef de l'État qui propose les termes du référendum. Ah, il n'y a peut-être pas un petit problème d'un point de vue strictement de la démocratie pure et parfaite. Les Suisses, non, il y a ce cas de figure, le référendum, mais il a été élaboré dans le cadre de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une coalition obligatoire entre les quatre partis les plus importants. Et c'est modifié plus ou moins en douceur après chaque résultat électoral. Ça, c'est le référendum. Et l'initiative populaire, c'est ce que l'on connaît dans les perspectives un petit peu radicales, à savoir, il faut qu'il y ait un minimum de signatures pour que le texte soit proposé au peuple. Donc, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez sur la Suisse, les coffres forts, tout ce que vous voulez. Franchement, l'arrogance française en matière de leçons démocratiques... Bon, là, je me lâche un peu pour finir. Alors, je termine avec quelques hypothèses noires. Voilà, donc bien plomber votre soirée. Premièrement, je ne suis pas du tout convaincu qu'après tout ce que je viens de dire, au pied du mur, la société, on va l'appeler comme ça, le peuple français, bon, la société politique française souhaite revenir à la 4e République. Pas certain, surtout compte tenu du spectacle que sur le très court terme, certes, la représentation nationale donne. C'est un peu comme s'il y avait eu un Kairos 4e République là, qui s'ouvrait. Donc, pour l'instant, soyons clairs, ce soir aussi, alors demain matin, qui sera Premier ministre d'ailleurs la semaine prochaine, bon, ça sera peut-être différent, mais ce soir, nous cumulons les inconvénients de la 5e République et de la 4e République. Vous avez remarqué, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je ne suis pas du tout certain que tout cela conduise à une réforme 6e République allant dans le sens suisse, quoi. Pas du tout certain. Ça suppose surmonter tellement de handicaps divers et variés. D'autre part, il n'est pas certain qu'au-delà des frontières de ce cher et vieux pays, le mouvement général, alors géopolitique, mais pas que géopolitique, écologique. Nous sommes tous, alors là, à l'échelle planétaire, traversés par un mouvement que je qualifie de néo-religieux, c'est pas du tout, d'ailleurs, c'est ni péjoratif ni amélioratif, c'est un constat, un mouvement néo-religieux qui nous dit clairement que la référence c'est Gaïa, et que tout ça, extrêmement inquiétant, et que tout ça pourrait aller très mal. Comment voulez-vous que si ce mouvement des religieux se généralise, s'aboutisse à la démocratie participative? Qu'est-ce qui peut imaginer un seul instant que ce sera la démocratie participative? S'il y a cette urgence, s'il y a le feu au lac, régime autoritaire, évidemment. Je ne dis pas totalitaire. Bon. Et vous savez qu'il y a eu déjà des uchronies depuis. Une bande dessinée assez ancienne qui imaginait une dictature écologiste, par exemple. Ah ben oui, il y a eu des descentes pour vérifier si vous êtes... Oui. Bon. Donc, il n'y a aucune raison. Là aussi, c'est purement idéologique de penser que, bien entendu, il y a une hypothèse d'utopie traditionnelle, d'ailleurs, Thoreau, bon, tout ce qui est Thoreau, qui arrive à René Dumont, tout ce qu'on veut, André Gorce, oui, mais c'est une hypothèse. Si les rapports de force sont différents, et je voudrais terminer en rappelant que la démocratie standard pour les bons élèves, celle qu'on étudiait encore pas mal, mais qu'on étudiait encore plus, surtout quand on faisait du latin et du grec, dans les bonnes classes, et dans la bonne société, etc., c'était la démocratie athénienne, hein, avec Démosthène, Périclès. Mais comment est-ce qu'elle a terminé, la démocratie athénienne? Par Philippe de Macédoine. Donc, voilà, je suis désolé de dire que je suis assez fasciné, et en tant que Français, je ne pense pas que je changerai de nationalité. Je précise tout de suite solennellement, je ne vais pas demander à devenir Suisse. Voilà. Donc je mourrai probablement français, mais je n'en suis pas moins perplexe devant ce destin singulier de la France, qui a un tropisme autoritaire, pas totalitaire, mais totalitaire récurrent, et sur une planète qui pourrait être tentée de suivre les mêmes voies. Là, vous auriez une exemplarité française dont on ne se flatterait pas. Merci. D'accord.